Donc, merci Madame Guilly, merci à tout le monde d'être venu nombreux, au point qu'il faudrait pousser les murs. Bon, écoutez, je vais aborder un grand sujet tout à l'heure avec Chantal, que vous connaissez tous. Comptez le nombre d'hommes. Il y en a quand même quelques-uns. Hein. On s'est dit, ils n'ont pas osé. Il y en a quand même quelques-uns. Voilà, ça n'a pas fait peur à tout le monde. Donc, ce dont je vais vous parler, Madame Guilly l'a déjà écouté. Donc, elle a dû dire, comment on dit, nil obstat, imprimatur, non pas imprimatur, mais causature. Donc, on peut parler d'un sujet qu'elle a déjà entendu, et puis voilà, qui a dû penser que ça pourrait intéresser les membres de la société archéologique. Voilà, alors, femme du Limousin conduit soumise. Oui, alors pourquoi j'ai voulu parler des femmes du Limousin parce que, comme vous devez le savoir, moi je suis originaire d'une autre région et je suis ethnologue. Donc il y a le double recul de la distance quand on arrive dans un autre pays, et c'est le propre des ethnologues, c'est de se dépayser. Et quand je suis arrivée en Limousin, j'ai été dépaysée. Venant de l'Algérie après une enfance en Algérie, de Lorraine après une enfance en Algérie, des séjours d'ethnologie au Pérou, au Mexique, encore en Algérie, je me suis dit, suivant mon mari qui s'installe en Limousin, on va rentrer en France. On est peut-être rentré en France, mais ce n'était pas la France que je connaissais. Donc c'était encore un autre dépaysement. Et dès l'abord, je me suis dit, les femmes d'ici, j'ai l'impression qu'elles ont un poids que je ne leur ai pas connu en Lorraine, par exemple. Est-ce que c'est subjectif ou est-ce que ça correspond à quelque chose? Donc, depuis les premiers travaux, recherches que j'ai faites en Limousin, c'est-à-dire le premier, ça a été Pays et paysans du Limousin que vous avez là-bas, qui est sorti en 1995, depuis cette époque-là, je m'interroge sur la place des femmes en Limousin. Et peu à peu, je me suis rendu compte que ce n'était pas subjectif, que ça correspondait à quelque chose de très concret. Donc, ce dont je vais vous parler. Et l'ethnologie par rapport à ça, vous savez que l'œuvre majeure d'un grand anthropologue, parce que ethnologie et anthropologie, il n'y a pas bien de différence, c'est quand même celle de Lévi-Strauss, les structures élémentaires de la parenté. Donc, la parenté, le mode de mariage, le mode de transmission des héritages, le choix du conjoint, comme on dit chez les ethnologues, c'est très important et ça structure les familles, ça structure les héritages et c'est capital. Donc moi je me suis intéressée à la question en Limousin. Qui hérite de la terre en Limousin? Et dans les premiers temps où j'intervenais, à propos de pays paysans, tout le monde se regardait comme ça. C'est les hommes. Ah. Bon, j'en étais restée là. Et puis, plus j'ai avancé, plus je me suis dit, les hommes, oui, mais pas forcément les hommes. Et l'ethnologie aussi, pourquoi? C'est que ça nous amène à comprendre que ce qu'on fait, ce qu'on décide, la façon dont on se comporte, on croit que c'est un choix personnel, mais c'est toujours déterminé par la vie qu'ont vécu nos ancêtres, par les traditions qui se transmettent, par la façon dont les sociétés, les groupes humains ont réagi à l'histoire. Et des fois, ont dû réagir pour s'adapter à l'histoire et à des conditions particulièrement difficiles. Donc les traditions, ça évolue. Et voilà, c'est un peu de tout ça que je voulais parler, mais à partir de cas quand même imagés, concrets. Bon, je vais me mettre un peu plus par là, peut-être qu'il y a encore du monde là-bas.
Un micro, madame, ce serait bien.
J'ai pas de micro, mais je vais parler fort. Voilà. Donc, je vais mettre un peu plus par là. Voilà, alors.
Je ne vous gêne pas, là.
Je ne sais pas trop où je vais le mettre. Voilà. Alors, cette image que vous avez là, c'est en gros la couverture du livre « C'est par les femmes ». Vous avez à droite une vieille paysanne que j'ai trouvée particulièrement belle, donc vieille mémé d'autrefois. C'est une photo de Simon Lauradour qui était originaire des Burans-Merlin et qui pendant très très longtemps a été correspondant de la montagne pour toute la zone et qui a envoyé des très belles photos à la montagne. Et il est décédé il y a 2-3 ans et il a déposé toute sa collection de photos aux archives départementales, pas municipales, départementales à Tulle, donc vous pouvez les retrouver. Et donc j'ai été voir un peu tout ce qu'il avait déposé et cette femme-là m'a semblé vraiment particulièrement attachante, le visage tout ridé comme une vieille pomme d'hiver, tout en noir évidemment, les sabots noirs et le petit mouchoir là qu'elle tripote, toujours les femmes ont un petit chiffon pour s'essuyer une larme, pour essuyer un gamin, on fait comme ça et puis on essuie. Tout, hein. Voilà, et en contraste, eh bien, vous avez cette magnifique représentation d'une femme comme ça, alanguie. Et peut-être certains de vous la connaissent, mais sinon, eh bien, on va voir ce qu'elle représente. Mais le contraste, c'est aussi une corésienne. Hein. Donc le contraste entre les deux m'a semblé particulièrement intéressant et riche d'histoires, de commentaires, voilà, etc. Alors, donc, quand je suis arrivée en Limousin, j'ai essayé de voir tout ce qui... Bon, j'ai le choix, évidemment, c'est mon boulot. Et aussi, l'ethnologie, ça ne va pas sans retour à l'histoire. Parce que ce que nous vivons, c'est le résultat de l'histoire. Donc, j'ai un peu lu tout ce qui avait pu s'écrire. Et presque partout, on disait qu'en Limousin, la femme était soumise. Et le nombre de dictons misogynes qu'on peut trouver est absolument incroyable. Et il y avait l'abbé Gors qui a écrit fin 19e, début 20e, et qui concluait de toute cette liste de dictons misogynes, bah, finalement, c'est toujours par les femmes que la misère vient. Bon. Et alors là, vous avez une illustration particulièrement éclairante, c'est une illustration parue dans Limoges Illustrée du début du siècle, vers 1905, etc. Particulièrement, croyez, vous savez, là, le bonhomme qui tape sur sa mule et sur sa femme et sur son chien, et ça illustre parfaitement le dicton, tu as une bonne mule, tu as une bonne chèvre, tu as une bonne femme, tu as trois méchantes bêtes. Voilà, c'est un dicton. Et alors, il y en a d'autres. Et toujours les histoires des châtaignes dans la banque, vous connaissez. Trois châtaignes dans la banque, bonne année. Trois filles à la maison, mais en ruinée. Bon. Jeune fille bois tendre et non, jeune fille pain tendre et bois vert font tourner les maisons à l'envers. Enfin, il y en a des quantités. Et voilà. Alors, moi, j'ai, comme vous pouvez le penser, j'ai essayé de prendre le contre-pied. Peut-être que je ne suis pas objective, j'en sais rien. C'est vous qui me direz. Et voilà, j'ai essayé de montrer peut-être un peu une image différente. Alors, quand j'ai parlé de faire un travail sur les femmes, tout le monde m'a dit, ah oui, les femmes, qu'est-ce qu'elles ont travaillé pendant la guerre.
C'est vrai.
Et alors oui, pour terminer sur ce que je disais tout à l'heure, il y a un grand personnage qui malheureusement ne va plus très très bien cet an dernier. Vous voyez, un grand monsieur là, politique, qui disait « Ah, ce que j'aime chez les femmes corésiennes, c'est qu'elles se tiennent toujours derrière l'homme pour le servir. » Pour lui, c'est des signes de soumission. Mais c'est pas parce que les femmes sont derrière qu'elles sont soumises. Peut-être même le contraire. Eh bien oui, elles sont maîtresses des ventres, etc. Et ben, voilà. Donc, bon. Alors, ça, c'était aussi une photo de Simon Loradour. C'est un bistrot en Haute-Corrèze. Bon, la femme, elle est derrière. Et les hommes, ben, ils sont bien interpellés. Évidemment, c'est un bistrot. Hein, mais bon. La photo était tellement belle. Je voulais montrer. Voilà. Oui, le tiroir pour mettre les assiettes, pour mettre le pain, pour mettre le fromage, pour mettre le suze, la radio là-haut. Vraiment une belle image. Alors voilà, on m'a parlé juste. Voilà. justement, on me disait, oui, alors pendant la guerre, elles ont été capables de remplacer les hommes dans tous les travaux, sur la terre, évidemment, pour labourer, pour cultiver, pour, etc. Et aussi dans les usines. Alors là, c'est une magnifique photo qui est possédée par la BFM, c'est les fabrications d'obus. Donc vous avez les femmes, c'est une photo un peu exceptionnelle, c'est les femmes qui sont en train de travailler les obus, de fabriquer les obus. Et Dieu sait si les obus, c'est lourd. Donc à la fin de la journée, elles avaient trimballé des tonnes d'obus. Alors, à la fin de la guerre, elles pensaient, ces chères dames, avoir acquis un peu de liberté. Dès l'armistice,
retour chez vous,
même celles dont les hommes ne reviendraient jamais, donc elles étaient privées de moyens de subsistance, même celles dont les hommes revenaient blessés ou amochés, hein. Voilà, tout de suite, retour chez vous. Même ça, c'était pas forcément pendant la guerre. Il y a des mines en Limousin. Donc là, c'est en Creuse, c'est les mines de Lavaveix-les-Mines. Et vous avez ces femmes-là qui étaient chargées de transporter du minerai dans leur grande carriole. Et on les appelait les modistes. Les modistes parce qu'elles avaient la coquetterie d'avoir un joli chapeau noir avec un rude en bois. Elles ont beau être toutes charbonnées, hein, bon, alors, les modistes, c'est leur main toute noire. Elles travaillaient, mais bon, elles gardaient cette petite féminité. Et puis vous avez, par exemple, dans les carrières de kaolin, le travail des femmes qui remplaçaient les wagonnets de ce temps-là qui n'existaient pas, ces théories de femmes qui portaient le kaolin sur la tête, pour pouvoir faire les magnifiques porcelaines de Limoges, pour aller faire la renommée de Limoges dans le monde entier.
C'est quelle année
là? Donc, ça, bon, c'est 1900, ça doit être un peu avant la guerre. Hein. Et par exemple, je vais vous dire que au Mexique, eh ben, il y a des familles qui possèdent de la porcelaine de Limoges qui date de cette époque-là. Donc c'était une porcelaine qu'ils avaient héritée de grands-parents, donc dans des propriétés, dans hacienda péruvienne, c'est-à-dire des propriétés un peu riches, et ils servaient comme vraiment marque de distinction la porcelaine de Limoges. Limoges, c'est connu,
oui.
Jusqu'au Mexique et ailleurs. Et puis aussi, ça c'est toujours dans les usines de porcelaine, donc là c'est ce qu'on appelait les garnisseuses ou les retoucheuses, c'est-à-dire que c'est des femmes qui prenaient les objets de porcelaine, les tasses, et elles leur mettaient les anses ou elles les frottaient pour faire enlever les petites imperfections. Donc elles étaient couvertes de poudre de kaolin. C'est pour ça qu'elles sont toutes blanches. Et vous avez les hommes pareil. Mais alors évidemment, même travail, salaire, le tiers. Et elles sont arrivées au maximum à avoir des salaires moitié. Voilà. Mais enfin, quand on regarde les listes, eh ben on voit qu'il y a énormément de femmes, d'enfants aussi, mais énormément de femmes. Et alors, toutes ces femmes-là, c'était des femmes qui avaient quitté la terre, aux alentours de Limoges. Elles avaient quitté la terre parce que dans la région de Limoges, l'ouest de Limoges notamment, c'est toute la région dont parle Georges-Emmanuel Clancier quand il parle de sa grand-mère. C'était des régions de métayage. Donc il y a bien la distinction entre les zones de métayage, qui sont les zones plus ou moins plutôt riches de l'ouest de Limoges, et les zones de l'est, où ce sont plutôt des régions de petites propriétés. Donc le sort des femmes n'est pas du tout le même. En tout cas, dans ces zones de métayage, les femmes étaient très heureuses de quitter leur situation de métayère pour trouver un travail, même si c'était très peu payé, c'était au moins une espèce de liberté qu'elles avaient, d'autonomie. Alors bien sûr, le grand changement, la grande liberté, ça a été l'instruction, l'école obligatoire pour les filles comme pour les garçons. Et les parents envoyaient facilement leurs filles à l'école, parce qu'elle disait, bon, au moins tu vas t'en sortir. Tandis que, et on, souvent, on leur inculquait le français beaucoup plus qu'aux garçons, parce qu'on leur disait, comme ça, tu vas pouvoir gagner la ville, avoir un travail. Donc, employée, institutrice, infirmière, etc. Toutes ces professions, couturière aussi, parce que pour être couturière, il faut quand même savoir lire, écrire, et compter, etc. Et alors que les garçons, on les destinait plus à la terre et on leur parlait plus en patois.
Oui, voilà.
Ah, oui, Kofi. Voilà. Et alors, il ne faut pas penser, il ne faut pas non plus oublier que pendant la Deuxième Guerre, le rôle des femmes. Alors, le rôle des femmes pour, comme messagères, au péril de leur vie, c'est sûr. Hein. Mais pas seulement, comme nourricières aussi. Parce que qui est-ce qui nourrissait les maquis, au péril de leur vie aussi, c'était les femmes. Donc, ils devaient apporter à manger sans se faire voir, etc. etc. Et cacher les gens. Et voilà, c'est vrai, ça. Voilà. Alors, tout ça, c'est vrai. Je retourne là. Tout ça, c'est vrai. Mais c'est pas vraiment de ça que je veux parler. D'autant plus que tout ça, je pense que c'est un peu général à toutes les femmes dans toute la France. C'est pas spécialement Limousin, sauf peut-être qu'il y a eu des maquis en Limousin particulièrement importants, hein, et que pendant la Première Guerre mondiale, eh ben on sait bien que les paysans limousins, ils ont été envoyés en première ligne. Donc c'était peut-être encore plus dur que pour d'autres femmes. Mais c'est pas vraiment ça dont je voulais parler, parce que ça, tout le monde le sait, et on le dit, et on le répète, et on ne le répétera jamais assez. Ça, c'est sûr. Mais moi, j'ai voulu remonter encore plus haut, au tout début. Bon, alors, on va remonter au paléolithique. Le paléolithique supérieur, c'est le temps si Pierre-Yves de Mars, que vous avez déjà fait venir ici, était là, il vous l'expliquerait, et il l'a expliqué beaucoup mieux que moi, mais ça, ce qu'il a dit m'a beaucoup intéressée, c'est que c'était une époque, c'est l'époque de Lascaux, hein, une époque où, on l'oublie souvent, il faisait très froid, et ce temps-là, on dit que c'était la civilisation du renne. Le renne, c'est qu'il reste des rennes encore actuellement, et ben c'est des civilisations de la Laponie, du Groenland, de la toundra sibérienne, etc. Et le renne était capital. Et comme Pierre-Yves de Mars vous l'a expliqué, et bien les rennes, ils migrent saisonnièrement. Quand le temps et l'été, disons, ils sont trop chauds dans les plaines. Et ils remontent. L'hiver, ils restent au bord de la Vézère. Il faut bien dire que les bords de la Vézère et de la Dordogne, c'était les régions, toute proportion gardée, c'était les régions les plus peuplées d'Europe. Parce qu'il faisait plus tempéré. C'était un climat relativement moins dur qu'ailleurs. Donc c'est pour ça que cette civilisation-là s'est développée autour de ces rivières. Mais suivant la transhumance des rennes, ils avaient trop chaud dans les plaines, et l'hiver, ils remontaient sur les plateaux. Donc les plateaux du Causse, par là, et ensuite plus loin, les plateaux jusqu'au Cantal, jusqu'au Monédière, jusqu'au Mévache. Et là, on a trouvé des vestiges d'objets qu'ils avaient oubliés. Voilà, donc. Il faut bien se dire que les gens de Lascaux, ils venaient en villégiature plus haut. Donc le sort des femmes qui pouvaient vivre à Lascaux, c'était aussi, elles se déplaçaient et ils faisaient transhumance. Et le renne, c'était l'animal capital qui assurait la viande, bien sûr, mais qui assurait aussi les peaux pour les tentes, les peaux pour les vêtements. Et les peaux, eh ben, pour faire des vêtements, eh ben, il fallait avoir une bonne couturière à la maison. Et les archéologues préhistoriens se sont rendus compte que, allez voir comment ça se passe encore en Laponie, au Groenland, à la toundra, des endroits où cette civilisation existe toujours, un petit peu changée quand même. C'était très intéressant parce qu'ils ont trouvé les mêmes outils pour racler les peaux et pour coudre qu'ils trouvaient eux-mêmes dans les sites de l'âge Magdalen. Donc les femmes devaient savoir très très bien coudre. Alors, il faut bien se dire aussi qu'on parle toujours des femmes nourricières. C'est vrai. Mais, et les femmes, alors là, il y a un mot qui manque. Un mot qui manque pour contrebalancer le mot nourricière, la nourriture, pour dire le vêtement. Comment on pourrait dire ? Des habilleuses ? Des vêtisseuses ? Des... Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas pourquoi le mot n'existe pas. En tout cas, quand la femme met son petit au monde, il faut bien qu'elle lui trouve quelque chose, une enveloppe chaude. Alors les femmes esquimaux le mettent dans leur capuchon. Mais bon, peut-être qu'entre les deux, il faut les mettre dans quelque chose. Donc il fallait un art très consommé de racler les peaux, de les mâcher pour les attendrir. Et les vieilles esquimaux n'ont plus de dents parce qu'elles mâchent les peaux pour les attendrir. Et pour faire des peaux souples, pour pouvoir habiller leurs enfants. Et si l'homme n'avait pas des vêtements étanches pour aller à la chasse et à la pêche, eh bien, il ne ramènerait rien à manger. Donc l'importance des femmes couturières, voilà, c'est sûr. Et puis aussi, alors là, vous avez donc les pattes du renne et la femme vraiment en position d'accouchement ou de pré-accouchement. Et on se rend compte aussi que les femmes, à cette époque-là, avaient un rôle vraiment important. Je ne parlerai pas de matriarcat, non, parce que c'est même ça. Matriarcat, c'est-à-dire le pouvoir des femmes. Je ne dirais pas le pouvoir des femmes. Mais le rôle absolument important des femmes. Ouais, vous pouvez vous asseoir, si vous avez une idée. Oui, c'est une douleur. Peut-être pas le
premier enfant.
Alors, je vais parler donc du rôle capital des femmes dans tout ce qui est sacré aussi. C'est-à-dire, c'est elles, et on verra que ça, c'est au cours des temps, c'est les femmes qui ont le rapport avec les forces supérieures qui sont censées nous gouverner. Elles savent qu'est-ce qu'il faut faire pour s'attirer les bonnes grâces, des éléments de puissance supérieure, des animaux, parce qu'il n'y avait pas tellement de différence à l'époque dans la conception entre les humains et les animaux. On fait partie d'un monde, d'un cosmos, d'une grande fraternité. Et il fallait, par exemple, quand on allait à la chasse, il fallait se concilier l'âme des animaux. Donc tout ça, c'était toujours les femmes qui s'en occupaient. Et savoir faire des amulettes pour tout le monde. Et voilà. Et vous avez beaucoup de femmes qui sont représentées avec des formes très généreuses. Vous voyez celle-là. Alors celle-là, y en a des plus abondantes que ça. Mais l'intéressant, c'est qu'elle met sa main sur son ventre, dans un geste que toutes les femmes qui ont des enfants connaissent. Voilà, c'est la protection, c'est la vie. Et elle indique que dans son ventre, il y a quelque chose, il y a quelqu'un plutôt. Et puis elle porte, alors là, une corne, on dit que c'est une corne de vache, une corne de ces animaux qui sont symboles de fertilité, ou de taureaux. Et il y a des stries, là, on ne sait pas très bien. Il y en a qui disent que ça indique le cycle de la lune. Ben, j'en sais rien. Bon, bref, en tout cas, l'importance des femmes dans cette civilisation-là. Et puis, peut-être que pendant très 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 longtemps, on n'a pas vraiment su, on n'a pas peut-être compris, le rôle de l'homme dans la procréation. Parce que ce qui est visible, c'est que l'enfant vient de la mère, mais ensuite, le rôle de l'homme. Donc peut-être, pendant très longtemps, ça n'a pas été très, très évident. Donc, ce qui fait comprendre l'importance dans ces civilisations-là de la place de la femme. Alors, on va sauter parce que. Alors là, Vous, à Brive et en Corrèze, vous dites les Caanix de Tintignac. J'ai fait une conférence il y a 15 jours à Creuse, en Creuse, mais ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas. Oui, Cyprès. Alors, j'aurais expliqué, bien sûr, quand même. Donc, alors là, vous avez, on passe à une civilisation 7. Alors, entre l'époque que je vous ai indiquée et celle-ci, il y a eu un grand apport, c'est l'agriculture. Et ça, ça change tout. Parce que l'époque d'avant, c'était une époque de plus ou moins nomade, et pendant très très longtemps, même dans les pays plus chauds, et quand le réchauffement s'est accéléré, les hommes, ils nomadisaient en fonction de ce qu'ils pouvaient trouver à manger. Donc dans cette civilisation, à cette étape de la civilisation, avant l'agriculture, ce qu'on laissait à ses enfants après, c'était pas capital. C'était quelques outils, quelques vêtements, mais il n'y avait pas de réserve, il n'y avait pas de terre. Donc c'était pas bien, très très important. Et donc l'héritage masculin et l'héritage féminin, ça n'allait pas chercher loin. Et là, ce que je vais vous dire à partir de la naissance de l'agriculture, c'est le poids, l'importance de la propriété de la terre pour la place de la femme. Et vous allez voir que tout ça, c'est des raisons économiques. Pourquoi les femmes, à l'origine, elles étaient plus pauvres, avaient une belle place, et pourquoi, peu à peu, on les a, elles ont perdu leur place, et c'est toujours des raisons économiques. Alors, là, au temps des Celtes, vous avez donc, ce que vous voyez, c'est des objets de guerre, parce que les Celtes, au temps des Celtes, il y a le développement de la métallurgie. Et le développement de la métallurgie a amené les différences de classe sociale. Il y avait les riches et les pauvres, il y avait ceux qui faisaient la guerre, ceux qui cultivaient. Voilà. Et ça a amené une société plus belliqueuse. Ça ne veut pas dire que les femmes n'étaient pas aussi belliqueuses, parce que d'après les témoignages anciens, on sait qu'il y avait aussi les Gauloises qui étaient guerrières et qu'elles faisaient très peur aux Romains. Parce qu'elles arrivaient comme ça, presque toutes nues, comme les hommes. Donc oui, un peu les femelles. Et les Romains, ils n'avaient pas l'habitude de ça, déjà, s'ils étaient contenancés. Bon, bref, tout ça pour dire que... Alors, pourquoi je vous ai montré ça? C'est parce que, bon, c'est notre histoire ici, hein. Parce que quand on parlait de Celtes avant ces découvertes-là, souvent on ricanait légèrement, on disait, bah, les Celtes, non, nous on est Gaulois, on n'est pas Celtes. Et puis les Gaulois, ça renvoyait souvent à Astérix, etc. Donc toutes les légendes qu'on rapporte là-dessus. Cette découverte-là a pu ancrer l'idée que les Gaulois sont des Celtes. Et les Celtes, ce n'est pas seulement la Gaule. Ça renvoie à une grande civilisation qui s'étendait sur presque toute l'Europe. Et là, ça renvoie au fameux, peut-être sans doute vous avez entendu parler, chaudron de Gundestrup, qui est un chaudron cérémoniel, cultuel, qui se trouve au musée de Copenhague, qui a été copié, les photos ont été copiées bien des fois. Et, mais alors, donc, vous voyez ces Caanix et ces guerriers qui sonnent du Caanix, et ces hommes avec leurs boucliers, et puis aussi ces casques avec des oiseaux, des sangliers, etc. Voilà. Et ça nous renvoie à toute une mythologie fantastique, qu'on ne comprend pas très très bien, mais ça nous renvoie à une mythologie vraiment pleine de mystères et très très riche. Ça renvoie notamment au dieu Cer, qu'on appelle Cernunnos ou Cernunnos, vous voyez, c'est un dieu qui a des rameaux sur la tête, qui a un torque au cou et qui a un torque dans la main. Et le torque, c'est le symbole un peu des guerriers, des héros. Mais les hommes ne sont pas les seuls à avoir le torque. Vous allez voir, là, vous avez une personne féminine qui a un torque. Là. Et vous environnez de toutes sortes de personnages un peu fantastiques, des roues symboliques, etc., et tout un bestiaire mythologique qui renvoie à la mythologie. Les chercheurs ne sont pas d'accord sur ce qu'il faut. Il y en a qui renvoient au signe du zodiaque, il y en a qui renvoient à des mythologies liés au taureau, enfin bref, au culte, au système solaire. Bon, c'est pas le moment d'en discuter. Mais les divinités féminines ont toute leur place, et les femmes aussi. Donc cette divinité-là, vous en avez un autre aspect là. Là, vous voyez bien, elle a le torque. Et c'est le torque des guerriers, le torque des divinités un peu héroïsées. Voilà, donc vous voyez déjà toute la place des femmes. Et alors, ce que je vous disais tout à l'heure concernant la propriété, alors, ce qui m'a fait comprendre, c'est j'ai vécu au Pérou le genre de situation qui pouvait être celle des Celtes. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de propriété privée au sens strict chez les Celtes. La propriété était celle du clan, celle de la communauté, celle du groupe. Donc c'était, il n'y avait pas d'héritage véritablement privé. Et même chose au Pérou. Au Pérou, on parle toujours des communautés des Andes. C'est vraiment des communautés. C'est-à-dire que la terre n'est pas traditionnellement, parce que le système espagnol ensuite a tout perturbé, hein, le colonisateur. Traditionnellement, la terre, elle appartient à la communauté. Et la terre est divisée en deux. D'un côté, on met les animaux, et au bout de 3, 4, 5 années, il y a un roulement, et on change. Donc d'un côté les animaux, d'un côté les cultures. Mais seulement, il faut que tout le monde respecte. Ils se mettent d'accord sur la date. Et sur ce qu'on va semer, donc la rotation. Donc il faut une grande discipline. Et alors, quand un couple se constitue, on lui donne une parcelle de terre pour pouvoir subsister. Et si le couple se dissout, le couple rend la terre. Donc il n'y a pas d'héritage. Et par-dessus ça, il y a une coutume qui s'appelle, en traduisant en français, mariage à l'essai. Quand un garçon et une fille se plaisent, on les fait vivir, c'est-à-dire vivre ensemble. On leur confie une pièce, ils vivent ensemble. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, on se sépare. Pourquoi ? Ben, y a pas d'histoire de terre et d'héritage. Donc ça engage, ça ne porte pas conséquence. Il n'y a rien. Tandis que dans nos civilisations paysannes, oulala, oulala, le notaire, tout écrire, qui donnera ci, qui donnera ça, etc., etc., et les querelles. Mais là, tout simple. Ils se plaisent, ils se mettent ensemble. Bon, quand il y a un enfant qui arrive, généralement, ils restent ensemble. Mais sinon, bon, ils peuvent. Et moi, j'ai constaté que dans ces situations-là, ben, même la femme des Andes, vous voyez les images des Andes, vous avez été dans les Andes, vous les voyez, les femmes sur les marchés, commercer, aller, venir. Moi, j'ai vécu un an et demi dans un village des Andes. Je peux vous dire que c'était pas prude, c'était pas non plus. Bon, mais il n'y avait pas cette phobie de la virginité, cette phobie de du couple et des adultères. Non, c'était beaucoup plus. Plus simple, finalement. Hein. Et chez les Celtes, c'était pareil. C'était pareil, si la femme avait une position sociale et plus importante, c'était elle qui était la patronne. Sinon, c'était le garçon. Donc. Et les femmes celtes jouissaient d'une certaine indépendance, bien que, quand même, on n'était plus autant préhistorique. Hein. Donc, c'était quand même le garçon qui était guerrier, quand même. Hein. Et les garçons étaient souvent mercenaires dans des pays autres et ils rapportaient de l'argent. Déjà, une histoire d'émigration. Et quand l'homme était parti en émigration, non pas en émigration, mais ailleurs, pour combattre, et qui ramenait de l'argent, bien, c'était la femme qui restait et qui gérait les biens. Voilà. Et alors, il y avait une coutume qui va vous faire penser, qui va peut-être vous dire, oh, quand même, et puis après vous dire, bah, finalement, c'est pareil. Il y avait une coutume, tous les ans, on changeait de serviteur, de valet. Tous les ans au mois de mai, le 1er mai. Au mois de mai, tout le monde change de serviteur. Et l'homme pouvait prendre une servante pour un an. Et elle pouvait être sa concubine. Et la femme, elle acceptait ça, c'était pas un problème. Ouais, vous tiquez là. Hein, hein, mais oui, c'était pas vrai. Alors, premièrement, c'était une servante. Et deuxièmement, eh ben, des fois, au lieu de dire j'ai la migraine. Bon. Mais dans notre Limousin du début du XXe siècle encore, on vous le dit, que tous les ans ont changé de vallée. Souvent ont changé. Et il y avait tous les ans, à des dates déterminées, variables selon les. Il y avait la foire aussi aux vallées.
Mais quand il y avait un enfant, il allait où alors à ce moment-là?
Ah oui, regardez, on ne considérait pas que c'était un bâtard.
C'est demi-frère.
Voilà, et l'homme devait garder l'enfant. Voilà. Alors, je continue, parce qu'il y a des foires aux valets et aux servantes tous les ans en Limousin. Et ceux qui voulaient s'embaucher, ils portaient un signe distinctif, une fleur ou un épi, etc. Hein, tout le monde le raconte. Et puis, vous savez, les servantes, le nombre de naissances illégitimes. Bon, ben c'était souvent le patron, le fils du patron. Mm-hmm. Eh bien, quelle différence
dans le bazar.
Quelle différence?
Une grosse différence, parce qu'en fait, les femmes, dans ce cas-là, elles devaient porter l'opprobre de
l'âge. Eh bien, voilà, exactement.
Alors qu'autrement, c'était officialisé dans la famille.
Exactement.
Et l'enfant était reconnu, n'en souffrait pas.
Voilà, exactement. Vous avez tout à fait raison. Voilà. C'est ça. Mais le principe est resté.
Oui. Que le mauvais côté.
Que le mauvais côté. Ben on va voir pourquoi justement. Pourquoi le propre. Alors, il y avait aussi les divinités. On connaît beaucoup de divinités féminines. Là, c'est Epona. La déesse Epona, vous la retrouvez là. Et qui est toujours avec un cheval, à côté du cheval ou sur le cheval. C'était la déesse qui. Très très populaire dans la Gaule romaine, qui veillait sur les passages. Alors, les passages. De route, les passages de rivière et le passage vers l'autre monde. Le cheval, on dit que c'est un animal psychopompe, c'est-à-dire qu'il mène les âmes dans l'autre monde. Donc c'était toujours Epona qui veillait là-dessus. Et puis, vous aviez énormément, ça c'est une petite divinité, pas gauloise mais gallo-romaine, vous aviez énormément de petites divinités qui étaient multipliées un peu par moulage, un petit peu comme les Saintes Vierges de Lourdes. Vous voyez, on en trouve des quantités toujours à peu près sur le même modèle. Et alors, celle-là, elle est au musée de Vasaï, musée de Mac. Mais on en trouve à Brive, il y en a, au musée de la Binche, à Guéré, dans toute la France. Il y a ce genre de divinité. On l'appelle Vénus Anadiomène, ça veut dire Vénus sortie de l'eau. Hein, et vous avez la Vénus de Botticelli. C'est pareil. Alors, d'une main... Elle fait couler l'eau comme ça, et cette main est particulièrement grande parce qu'on dit qu'elle fait couler l'eau. Et ce sont un peu des mains de je dirais pas de guérisseuse, mais de thérapeute, liées à l'eau. Hein. Et puis de l'autre main, la main droite, elle a sa chevelure. Regardez l'image en tête. Donc c'était toutes des petites divinités liées à l'eau. Parce que la religion romaine, la religion galloise, apportait une grande importance aux éléments naturels, l'eau, le bois, le rocher, la végétation, etc. Et toujours lié à l'eau et aux phénomènes naturels, comme les sites un peu extraordinaires, où il y avait toujours des cultes. Et il y avait toujours beaucoup de cultes autour des sources. Alors vous avez aussi des déesses mères. Alors là, elle est doublement mère, puisqu'elle a. Elle a deux bébés, hein. Et vous avez aussi des déesses grand-mères. Alors ça, je triche, c'est pas la Corrèze, c'est un peu plus haut, c'est au musée d'Argenton Magus, le musée gaulois. Et vous avez, extraordinaire, vous avez, je l'ai mis parce qu'après ça va faire référence à autre chose. Vous avez une personne supérieure, là, en haut, première génération. Là, vous avez une deuxième génération. Et là, vous avez une troisième génération. Voilà. C'est comme s'il y avait une espèce de filiation par les femmes. Les hommes, là, où est-ce qu'ils sont, j'en sais rien. Voilà. Voilà. Et ça explique aussi, bon, cette dépendance. Mais je l'ai mis pour un truc particulier, on va voir tout à l'heure. Suspense. Alors maintenant, on va passer un petit peu à des choses au temps de la Gaule romaine. Là. Alors vous voyez que les Romains, ils ont créé des subdivisions administratives. Et là, en ce qui nous concerne, nous sommes donc dans l'Aquitaine première. Et là, vous avez l'Aquitaine seconde. Donc si on compare après avec les cartes qui nous concernent, l'Aquitaine fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Il n'y a plus l'Auvergne, et ça redescend jusqu'en bas. Donc, mais ce qui est important à souligner, c'est la limite de la Loire. Cette limite-là, qu'on va retrouver encore pendant très 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 longtemps. Voilà, alors quand les Gaulois se sont installés, ils ont respecté quasiment les cultes gaulois, parce que c'était pas bien différent. Et les cultes gaulois ont pu se perpétuer, sauf qu'ils ont, ils ont laissé la religion, mais ils s'en sont pris aux druides, qui étaient autant des chefs spirituels que des prêtres. Donc les druides ont été très éliminés, écartés, mais les cultes ont continué. Alors, là où tout va changer, c'est quand le christianisme est apparu. Alors, le christianisme, bon, Jésus, c'est bientôt Noël, c'est théoriquement l'an zéro, hein. Et là, vous avez Constantin, l'empereur Constantin, vers l'an 300, donc il a bien fallu 300 ans, pour que ce petit groupe de personnes qui suivaient qui étaient les disciples du Christ, qui propageaient une morale et une façon de vivre un peu hors du commun, qui prenaient l'amour, le partage, etc. Ça a mis beaucoup de temps pour se développer et pour passer d'une secte qui a réussi à une véritable religion. Et cette véritable religion, elle a été en partie due, elle s'est créée grâce à l'empereur Constantin, qui a adhéré aux idées du christianisme et qui en a fait la religion de l'Empire. Alors, on passe d'un espèce de polythéisme un peu diffus, sans vraiment cadre, sans grande rigidité, à un monothéisme masculin. Même s'il y a la Vierge à côté, mais le monothéisme, c'est masculin. Le clergé va être absolument masculin. Tous les évêques qui sont chefs de circonscription administrative, ça va être des hommes. Voilà. Et à partir de ce moment-là, il faut bien dire que la place de la femme, elle va prendre un sacré coup. Voilà. Alors, parce que monothéisme masculin, religion d'empire, ça suppose aussi d'avoir des moyens. Parce qu'il va falloir... des moyens de fonctionnement, comme on dit, il va falloir des bâtiments, il va falloir payer des prêtres, il va falloir montrer qu'on est riche et puissant, donc il va falloir énormément d'argent. Alors, l'image suivante, c'est en 481, disons presque deux siècles plus tard. Alors, voyez la carte de notre actuelle France, parce que ce n'est pas la France. Vous avez toujours une limite là, la Loire. Ce qui est apparu, ce sont les résultats de peuples qui ont envahi la Gaule, qu'on appelle les barbares, mais qui n'étaient pas forcément si barbares que ça. C'était des gens qui cherchaient des terres et qui cherchaient un endroit agréable où s'installer. La Gaule, finalement, ce n'était pas si agréable que ça par rapport à des endroits plus nordiques. Oui. Ou plus ou moins riche. Et alors, vous avez là en bleu un petit peuple qui va tout conditionner, c'est les Francs. Les Francs étaient une toute petite tribu qui venait de là. Mais déjà en 481, donc ils occupent là, ils n'ont pas encore allé jusqu'à Paris. Hein. Là, c'est encore au pouvoir des Romains. Là, vous avez les Alamans, là, vous avez les Burgondes, là, vous avez les Armoricains. Et là, c'est quoi là? C'était le royaume des Visigoths. Alors, c'est qui ces Visigoths-là? Eh bien, les Visigoths, c'était aussi des
barbares. Des barbares, entre guillemets, des barbares. C'est-à-dire que ces Visigoths-là, c'était avec les Ostrogoths et d'autres, non, les Gogoths. Voilà, ils venaient, eux, ils venaient de par là-bas, et très longtemps, ils ont erré par là, ils ont avancé peu à peu, mais ça a pris des dizaines, des centaines d'années. Et ce qu'ils voulaient, c'est que l'État romain, qui était de plus en plus faible, leur accorde des terres. Et alors, ils devenaient menaçants. Pendant très longtemps, ils sont restés là, ils ont même servi de mercenaires aux Romains. Et à un moment donné, comme l'Empire romain était de plus en plus déclinant, et qu'ils ont même mis à sac Rome, à un moment donné, ils ont dit, bon, allez, ok, fichez-nous la paix, allez vous installer à Toulouse. Vous nous aiderez à maintenir l'ordre. Voilà, alors, ils se sont installés là. Et par là, et ensuite, ils se sont installés... un peu étendus, parce que ces soi-disant barbares avaient une civilisation quand même très, très développée, les femmes y avaient un rôle relativement important, ils étaient lettrés, ils s'y connaissaient dans le droit, puisque le code d'Alaric ensuite a servi de base pour nos futurs codes, dans le futur droit, et puis ces Visigoths-là, pendant qu'ils étaient là, ils ont subi l'influence des Romains et, 481, les Romains christianisés, les Romains chrétiens. Donc, les Visigoths, ils se sont fait chrétiens. Ils sont convertis. Mais attention, pas catholiques,
ariens.
Eh oui, ariens, parce que vous savez, quand une religion se constitue, eh bien, il va falloir décider qu'est-ce qu'on peut croire, qu'est-ce qu'on ne peut pas croire, à qui on va obéir. Et là, il y a eu des querelles épouvantables, des hérésies, etc., etc. Et les Ariens ont été considérés comme hérétiques par les catholiques dont le pape était à Rome. Donc, ils étaient chrétiens, mais ils n'étaient pas catholiques. Alors, image suivante. Regardez. Les Francs. Ils sont descendus jusqu'à la Loire.
Les Francs, c'était des Germains.
Oui.
Ah oui. Venaient de Germanie.
Oui.
C'est
oui.
Important ça.
Oui.
Parce qu'ils ont constitué une aristocratie.
Oui.
L'aristocratie française était d'origine germanique.
Exactement.
Ce qui a expliqué beaucoup de problèmes. Alors, avec le peuple.
Voilà, exactement. Et les Francs avaient, comme vous savez, un chef.
Clovis.
Et l'histoire, qu'est-ce qu'elle raconte? La belle histoire racontée par Grégoire de Tours, qu'est-ce qu'elle raconte? L'histoire de Clotilde. Parce que Clotilde était son épouse chrétienne catholique. Et Clovis avait dit à Clotilde, je me convertirai à ton Dieu si ton Dieu me donne la victoire. Donc elle a eu la victoire, c'était une victoire sur les Alamans. Il a eu la victoire et il s'est converti. Ça, c'est l'histoire.
C'est l'histoire,
hein? C'est la légende, hein? Parce que l'intérêt, quand même, c'est toujours l'intérêt, hein? En se convertissant au catholicisme, Clovis, il allait se mettre copain avec les catholiques, avec le pape, avec les évêques qui étaient les personnages les plus influents de l'époque. Donc, avec ses appuis de toute la catholicité, il a pu déclarer la guerre aux Visigoths et il s'était dit, comme ça, avec l'aide du pape, je vais pouvoir repousser les Visigoths. Et voilà, donc, la fameuse bataille de Vouillé, où Clovis a tué Alaric, le roi des Visigoths, on nous dit que c'est le début de la France, mais ça a permis à Clovis de repousser les Visigoths jusqu'en bas. Voilà, et donc de repousser, de conquérir toute la moitié sud de la France. Alors on dit Clovis, surtout on le dit en ce moment, que Clovis est notre grand héros, c'est le créateur de la nation française, et qu'il faut suivre les académiciens et les universitaires qui vont dire la vérité. Ben, la vérité, c'est que quand même Clovis, ça a été aux dépens de la nation française. Ça a été au dépend de la moitié sud de la France. Et là, il n'a pas été le premier. Il a été le premier parce qu'après, il y a eu Charles Martel, il y a eu quantité.
Voilà. Bon. D'empêche que, à partir de ce moment-là, la religion catholique, elle a pu s'épanouir librement dans tout le pays, dans tout le pays conquis, du nord jusqu'au sud. Et voilà, c'est une stèle à Mortemar. À l'église de Mortemar, il y a des magnifiques stèles. Et vous avez un évêque là, qui est là. Et c'est vraiment l'évêque. Du reste, tous les évêques, presque la plupart des évêques, un grand nombre d'évêques plutôt, ont été canonisés. Ils sont devenus des saints. Alors, non seulement pour pouvoir politique, mais ensuite pour pouvoir religieux. Il suffisait qu'on leur fasse une belle histoire, une belle biographie, qu'il y ait un ou deux miracles. Et puis, comme ça, peut-être que vous avez entendu parler de Jean Becquet, qui était bénédictin, je crois, et qui a écrit beaucoup sur le Limousin. Il a dit, la catégorie des saints, c'est une catégorie ouverte. Quand on en a besoin, on en trouve et on en crée. Voilà, donc c'est un religieux qui dit ça, c'est pas moi. Donc voilà, alors, le pouvoir de l'Église, le pouvoir de l'Église catholique et le pouvoir des hommes. Et alors, un jour, je me promène sur une petite route de la CTA Haute-Vienne, au sud de Limoges. Qu'est-ce que je vois sur le bord de la route? C'est marqué Saint-Georges, puis c'était blanc, ça c'est bien visible. Qu'est-ce qu'il vient faire, Saint-Georges, là? Il n'y avait rien, il y avait une espèce de patouillis... Je m'approche, et ben ici, il y avait une fontaine. Et voilà, il y avait une fontaine. Donc, tous les lieux fréquentés, les lieux de culte autour des fontaines, et ben ont été, je ne dis pas remplacés, mais étaient mis sous le patronage d'un saint masculin. Et voilà, donc c'est pour ça que les saints, c'est presque toujours des hommes, hein. Donc la Saint-Georges, en plus, c'est Saint-Georges qui terrasse le dragon. Donc le dragon, c'est le symbole de toutes les croyances pré-chrétiennes. Hein? Voilà. Et tous les lieux un petit peu forts, comme ce chaos rocheux qui se trouve à Montaignac-Saint-Hippolyte, donc ils ont été christianisés, tous les menhirs christianisés. Et donc, en fait... On dit toujours que l'Église a renversé les idoles. Mais peut-être au début. Mais après, il y a eu un mot d'ordre de Grégoire le Grand, qui était pape, vers l'an 600, qui disait à ses missionnaires, non, cassez pas, surtout pas, cassez pas. Là où il y a un culte installé, voilà, vous le mettez sous la domination, sous la protection d'un saint. Et les gens feront les mêmes gestes, mais au lieu que ça soit pour un dieu ou une déesse quelconque, ça sera pour le saint. Donc c'est une
expression de la domination masculine, oui, sur les forces de la nature.
Oui, oui.
Hein, le renversement de la domination par les femmes.
Exactement.
Donc là, ils ont mis leur sel partout pour écarter les véritables saints.
Et bien voilà. Exactement. Vous avez tout trouvé. C'est exactement ça. Et c'est quand une religion remplace une autre, elle s'installe dans un vieux lieu. Elle n'a pas besoin. Il y a eu un lieu sacré très fréquenté, ben on ne va pas en créer un autre, ça ne marchera pas, on s'installe. Voilà, et c'est comme ça que récemment vous avez eu les ostensions du Limousin, c'était que les ostensionnés, c'était que les hommes, sauf Valérie. Valérie, elle a réussi, en tant que patronne de Limoges, elle a réussi à être promenée dans les rues. Mais les autres, c'est que des hommes. Et alors, peut-être vous connaissez ce...
Mais non.
Oui, mais oui. Alors, ça n'a pas été... Ça a été plus loin que ça, dans la conquête des femmes. Ça a été plus loin que ça. Là, vous avez le... Vous connaissez personne? Vous connaissez ce que c'est? C'est Gimel. C'est l'église de Gimel. À un moment donné, on a voulu restaurer un vieux retable. Non, un vieux retable. Un retable du 17e, 18e, 19e siècle.
Bon, parce qu'il fallait le restaurer, on l'a enlevé. Mais dessous, qu'est-ce qu'on a trouvé? Des peintures du 15e siècle. Toutes restées toutes fraîches. Et cette peinture-là, elle est absolument merveilleuse. Franchement, allez-y, c'est vraiment magnifique de fraîcheur. Et ça raconte une histoire. Donc, ça raconte l'histoire de l'Annonciation. Vous avez la Vierge Marie à sa table de prière, vous avez son livre là. Vous avez l'ange Gabriel qui vient lui raconter qu'elle va mettre au monde un enfant qui deviendra un personnage important, un dieu. Il y a l'évêque qui est là pour voir si tout se passe bien. Et puis la Sainte Vierge dit, ben, comment est-ce que je pourrais mettre au monde un enfant? Je ne connais point d'homme. Il me dit, qu'à cela ne tienne, ne vous inquiétez pas, le Saint-Esprit s'en occupera. Et alors, regardez là-haut. Si vous n'aviez pas le truc là, vous avez le bon Dieu là, dans son empire. Là, hein. Et puis regardez ce que vous avez là.
La colombe.
La colombe, tout de suite. Et au milieu, le bébé. C'est pas mignon. Aussitôt fait. Voilà. Donc, la Vierge Marie a été présentée comme donc, la Vierge. Bien que Vierge, elle a un enfant. Donc, elle n'a pas passé par l'acte sexuel. Donc, c'est devenu posé comme modèle pour toutes les femmes. Modèle pour toutes les femmes. Et on a fait du mariage un sacrement, parce qu'avant le 12e, 13e siècle, eh ben, il n'y avait pas de mariage officiel. Il y avait des unions. Hein. Mais même, il y avait des concubinages, même chez les religieux. Donc, le pape Grégoire VII a voulu mettre un peu d'ordre dans tout ça, et il a institué le sacrement du mariage. Donc, à partir de ce moment-là, le mariage devenait contrôlé par l'Église, et puis indestructible pour toujours. Voilà. Mais il y avait aussi une espèce de volonté. Bon, ben, tout ce qui est religion, ça donne des codes et des règles. Hein. Ça règle, ça contrôle la société, toutes les religions. Enfin, du moins les religions officielles. Hein. Oui.
Ils ont aussi institué un sacrement pour la femme qui était impure après avoir eu un enfant. Donc il y avait un sacrement pour purifier la femme qui ne pouvait plus revenir à l'église après avoir eu un enfant.
Peut-être, je ne sais pas. On l'a connu. Oui. Je ne sais pas. Bon, alors peut-être. Alors, en tout cas, le mariage... moi, je me suis beaucoup fondée sur les travaux de Georges Duby, hein, qui est vraiment une personnalité... Bon, c'est sérieux. Et c'est lui qui nous raconte tout ça. Moi, je n'ai pas inventé ça. C'est lui qui raconte tout ça. Et que... quand une famille... Au moins, les familles riches, hein, parce que c'était les familles riches qui importent l'Église, le peuple, après tout... On ne peut pas en tirer grand-chose. Mais les familles riches, dans une famille de plusieurs enfants, on va marier une fille, on va marier un garçon. Ce garçon, peut-être, on va aussi l'envoyer aux croisades, on va faire la guerre, les chevaliers, etc. Et puis les autres, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Donc il y a une prolifération des monastères à cette époque-là. Et ces monastères étaient là pour accueillir les personnes dont le rôle n'était pas de faire des enfants. Parce qu'il fallait quand même bien faire des enfants, hein. Bien que l'acte sexuel soit vil, il fallait quand même assurer la descendance. Mais limité. Donc il y a une quantité de garçons et filles qui ont été envoyés au monastère. Mais seulement en arrivant au monastère. On les accueillait pas comme ça, pour leur bonne figure.
Avec de l'argent.
Ils arrivaient avec leur doge. Et oui, bien sûr. Donc c'était pour l'Église aussi une façon d'attirer les héritages. Et voilà. Donc pour assurer sa magnificence, voilà, c'était une façon de capter un peu les héritages. Et puis ensuite,
Il y a eu une invention, l'invention de l'enfer, parce que l'enfer, les évangiles ne parlent pas d'enfer. Jésus ne parlait pas d'enfer. Ça a été inventé après. L'inventaire où on brûle toute sa vie un petit feu, ça faisait tellement peur à tout le monde. Voilà. Alors, l'invention de l'enfer, ça a été aussi une façon, c'est toutes les abus du Moyen-Âge, hein. Ça a duré quand même pendant longtemps. Vous pouvez faire des fautes. Vous pouvez pécher si vous voulez. Enfin, si vous voulez, non, il vaut mieux pas pécher. Mais si vous péchez, c'est pas... Vous pouvez vous racheter. Vous racheter, le mot rachat, c'est au sens propre. Hein? Bon, et si vous lisez des testaments de l'époque, vous le voyez, je lègue à l'église pour pouvoir aller au paradis. C'est écrit partout. Hein, c'est pas une invention, ça. Voilà. Alors, après, il y a eu le système des indulgences, etc. etc. Donc, c'était aussi donc, ce que je vous appelle la culpabilité lucrative. C'est un peu, moi, je veux pas choquer, mais le parmi à point, c'est un peu ça. Hein. Bon. Alors, du coup, eh ben, notre femme, méfiez-vous des femmes. Puisque c'est soit votre épouse, l'épouse, vous aurez droit de faire l'acte de chair à certaines époques. Et il y avait un nombre incalculable de jours où on ne pouvait pas le faire. Donc, c'était très réglementé aussi. Alors, les femmes condamnées à procréer, hein, les femmes condamnées à aller au monastère, et puis toutes les autres, c'était des diablesses, ou alors des pénitentes. Alors, la figure qui s'est imposée à ce moment-là, c'est Sainte Madeleine. Sainte Madeleine, c'est la pécheresse. Alors, encore une fois, dans l'Évangile, il y a 3, 4, 5, 6 femmes qui pourraient être des Madeleines. Vous avez Marie de Magdala. Vous avez Marie de Béthanie, c'est pas la même, parce que si elle était de Béthanie, elle n'était pas de Magdala. Hein? Vous avez une pécheresse anonyme, vous avez une femme qui a couvert Jésus de ses cheveux, qui l'a couvert de parfum. Il y avait une femme possédée des 7 démons. Enfin, alors, l'Église orthodoxe a gardé 3 Saintes Madeleines. Mais l'Église catholique, elle a regroupé tout ça sous la femme. Les traits de la femme prostituée, pénitente, pécheresse, pour un seul dire pécheresse, mais qui se repent par amour de Jésus. Donc elle a toujours l'air un peu douloureuse. Donc il y a toujours les histoires de la Sainte Madeleine de la Sainte Baume, la Sainte Madeleine de Vézelay, des rivalités de pèlerinage, etc. Cette histoire très très compliquée. Sainte Madeleine, c'est la sainte qui se repent. Et pour la Sainte Baume, elle a été expiée pendant 30 années, ses péchés, dans les solitudes boisées, rocheuses de la Sainte Baume. Et puis, à la fin, elle était tellement déchiquetée, décharnée, qu'elle était quasiment toute nue, avec ses beaux cheveux pour la recouvrir, parce qu'elle avait des beaux cheveux. Enfin, bref. Voilà. Alors là, c'est notre Sainte Madeleine officielle. Vous avez aussi, par exemple, ici, à Cléda. C'est une toute petite une source sacrée où il y a une Sainte Madeleine sur son rocher. Voilà, et là, vous avez toujours le crâne qui est symbole de la vanité de toutes choses. Voilà, et souvent, il y a le pot de parfum. Non, elle n'a que le crâne. Mais dans celle qu'on verra tout à l'heure, il y a aussi le pot de parfum. Voilà. Et alors, je reviens. Regardez, ça ne vous dit rien? Alors, cet archétype-là, on s'en est souvenu au XVe siècle pour faire cette représentation-là, mais dans un tout autre esprit. Et ça, c'est une représentation qui se trouve à l'église de Chavana, au sud de Guéret. Vous pouvez y aller, c'est magnifique, et l'église est tout le temps ouverte. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce que ça représente? Ça représente Sainte Anne, la grand-mère, la Sainte Vierge, avec son bébé dans les bras, et puis, qui
c'est tout ça, tout ce monde-là.
Et les petits gars, là,
non ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits garçons. Voilà. Alors voilà. Alors voilà, c'est ça, cet archétype-là a été reproduit là, mais pour expliquer autre chose. Parce que dans l'Évangile, on raconte que Jésus avait des frères. Et du reste, il y a un roman qui a été écrit par François Chandernagor, qui s'appelle Jude, frère de Jésus. Alors, on dit que Jésus avait des frères. Mais comme ça ne pouvait pas coller avec une idée de virginité de la Vierge, virginité perpétuelle, on a dit, c'est pas ses frères, c'est des cousins, ça veut dire la même chose. Mais pour qui que ce soit ses cousins, comment est-ce qu'elle pouvait avoir des cousins? Il fallait lui donner des sœurs. Mais bizarre, parce que Sainte-Anne, théoriquement, elle était stérile. Et elle aussi, elle a conçu Marie miraculeusement. Bon. Alors, on a dit qu'elle avait changé de mari, c'était la faute du mari. Enfin, on lui a donné deux sœurs, et les sœurs ont eu des petits garçons. Voilà, alors on reprend un vieil archétype de la descendance par les femmes pour en faire, pour expliquer un dogme religieux, comme on a, comme pour qui arrange. Voilà. Alors, le duché, on va revenir un peu aux cartes. Alors voilà, le duché d'Aliénor d'Aquitaine, parce que bon, les Francs, quand ils se sont étendus, alors, après Clovis, il y a eu les rois fainéants. Donc les rois fainéants, tout l'empire de Clovis, ils n'ont pas su le garder, ils se sont bavarés, disputés, trucidés, etc. Et finalement, le duché d'Aquitaine a pu se reconstituer, voilà, se recomposer. Alors, donc, au XIIe siècle, tout ce duché-là a été confié, duché d'Aquitaine a été confié à Aliénor d'Aquitaine par son père. Et cette Aliénor d'Aquitaine, elle a été mariée une première fois au roi de France et une deuxième fois au roi d'Angleterre. Alors, aussi bien le roi de France que le roi d'Angleterre, ils ont pensé qu'en épousant la fille, ils auraient tout son domaine. Penses-tu? Parce que dans le sud, en dessous de la Loire, les filles héritent. Et oui. Tandis que dans le nord de la Loire, c'est le royaume, c'est les coutumes franques, et vous savez très bien que les coutumes franques excluent de la royauté ou de la possession de la terre les femmes. Et ça a même été la cause de la guerre de Cent Ans. Parce qu'il y a eu plusieurs héritiers. Un héritier descendant d'une fille qui avait été exclue, mais son fils, le petit-fils du roi, il revendiquait, il était anglais, il revendiquait aussi la couronne de France, et un cousin. Donc bref, ça a été la cause de la guerre de Cent Ans. Alors, ça va nous amener à nos histoires de terre, parce que c'est très important. Vous connaissez des reines de France, vous? Les reines de France? Il n'y en a pas. Sauf des épouses de rois. Vous avez des reines d'Angleterre, des reines d'Espagne, etc. En France, non. Bon, ben, dans le sud de la France, ben, c'est à cause de cette fameuse loi des Francs. Dans le sud de la France...
La loi salique.
Voilà, exactement. Dans le sud de la France, vous avez Aliénor d'Aquitaine qui est totalement duchesse de son duché et qui l'a défendu l'enfer et contre tout. Contre les rois, contre etc., jusqu'à sa mort. Vous avez des quantités de suzeraines. Vous avez, il y a, par exemple, autour de Merle, il y avait une Marie qui était co-suzeraine de l'ensemble. Vous avez quantité de. Je dis pas que ça n'existe pas dans le nord, mais dans le sud de la France, la suzeraineté féminine est très développée. Voilà. Et il y a des actes, par exemple pour Merle, où tel seigneur a le droit d'épouser une héritière à condition qu'il abandonne son nom et qu'il prenne le nom de sa femme. Comme vous verrez dans les monnaies d'hier, c'est Nicole Lemaître qui a étudié ça, une historienne bien connue, qui a trouvé toute une lignée de femmes propriétaires dans les monnaies d'hier, et elles gardaient leur nom, et le mari abandonnait son nom. Et oui, tout ça pour des raisons de terre. Bon, alors là, vous avez donc toujours la même ligne jusque-là. Et alors, cette ligne-là, maintenant, on est revenu à l'Aquitaine, à la nouvelle Aquitaine qu'on nous a fait. Sauf l'Auvergne, la pauvre Auvergne, on l'a filée au... à Paca, elle va jusqu'à l'Italie, à Rhône-Alpes. Et voilà. Je dis pas pour ça que c'est mieux, hein, parce que cet immense territoire, c'est épouvantable. Enfin, bref, ouais. Voilà. Alors, donc, au pays des suzerains du Sud, c'est aussi le pays de...
des troubadours.
Eh oui.
Et de l'amour pour toi.
Et de l'amour pour toi. Au moment même, 12e, 13e siècle, où Grégoire VII fait toutes ses lois pour réglementer les mariages et réglementer toute la place des femmes. Mais semble-t-il que dans le sud de la France, on n'en avait pas... C'est pas vraiment ce qui convenait. D'autant plus que vous avez là... Il y a toujours le partage du temps entre l'hiver et l'été. L'hiver, le temps du mari. L'été, le temps de l'amant. L'amour pour toi, c'est ça. C'est le jeune vassal qui a le droit de courtiser sa dame. Et toutes les poèmes commencent au joli mois de mai, quand les amours reviennent, l'alouette, la feuille verte, l'aubépine blanche, etc., etc., etc. Dedans, il y a toujours ce cycle-là. Et vous avez une troubadourice. La troubadourice du Limousin, qui s'appelle Marie Tadelour, qui est une fille du comte de Turenne, qui discutait dans un, ça s'appelle une tanson, avec Guy Ducel, qui était chanoine, mais peu importe, et qui se demandait si lequel dans l'amour avait la priorité, l'homme ou la femme. Et ils ont conclué que l'homme se doit d'honorer l'amant comme un ami, non comme un seigneur. Voilà, donc ça va complètement à l'encontre de tout ce que l'Église voulait faire passer. Ah. Et alors, une autre Madeleine en Limousin. Ça, c'est Sainte Madeleine de la Mirande, que vous trouvez à l'église de Sursac. Une magnifique statue en bois polychrome. Et alors, à Sursac, la Madeleine n'est pas pénitente. La Madeleine de Sursac, de la Mirande des bords de la Dordogne, c'est la protectrice des gabariers. Donc liée à l'eau, forcément. Et elle reprenait tous les rôles qui avaient été ceux d'Artémis, d'Isis, etc. De toutes sortes, plein de divinités de l'Orient, qui étaient aussi protectrices de l'eau, protectrices des marins. Donc cette Sainte Madeleine-là, elle n'était pas du tout une Sainte Madeleine pénitente. Et il y a une. Et je retourne à cette Sainte Madeleine-là. Alors je vais vous dire d'où elle vient. Elle est dans la chapelle des pénitents du sel. Certaines la connaissent. Et elle est censée être pénitente, puisqu'elle est dans la chapelle des pénitents. Ça vous fait rire. Et le prêtre disait la messe là, hein. En dessous, juste en dessous. Il y avait cette belle femme là. Et alors, ça pourrait être comme ça. Bon, on comprend pas bien, mais il y a une chanson en Limousin, une vieille chanson limousine de Sainte Madeleine. C'est le Louplein de Santa Madeleine. Je prononce mal. Bon. C'est une chanson qui raconte, une chanson très ancienne. Hein. Avec une mélodie très ancienne. Oui, c'est un rythme très ancien. Alors, ça raconte l'histoire de la Sainte Vierge et Saint Joseph qui se promenaient par chez nous. Oui, ils sont venus, ils n'étaient pas en Palestine, ils étaient par ici, ils se promenaient par chez nous. Ils rencontrent Madeleine qui jouait avec les garçons. Vous trouverez tout le texte sur le livre, hein, parce que je ne l'ai pas inventé, que vous prenez. Il est en occitan et il est en français. Il se promenait avec les garçons. Et Saint-Joseph et la Sainte-Vierge, veux-tu venir avec nous, Madeleine ?
Non, 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 vous n'avez pas d'assez beau garçon. Elle, alors, elle répond, mais comment ça, on a la fleur de tous? Bon, il voulait dire Jésus, bien sûr. Alors, Sainte Madame a dit, bon, ben, dans ce cas-là, je vais me préparer. Elle rentre chez elle, et se préparer, pour elle, d'après le texte, c'était prendre ses livres, prendre ses livres d'études, etc., parce que c'était une intellectuelle, elle est toujours représentée avec un livre, là, vous voyez, le livre, le pot de parfum, le crâne. Et en fait, quand elle arrive chez elle, elle tombe sur ses parents. Et alors, c'est ses parents qui vont lui dire, mais habille-toi. Et ses parents l'habillent. Tu ne vas pas y aller comme ça, et ses parents l'habillent. Alors, ils lui mettent, ils la coiffent avec du velours dans les cheveux, 30 tonnes de velours, hein, c'est pas rien. Ils lui mettent une robe de soleil, un tablier de lune, un châle d'étoiles, tous des symboles. Hein. Et voilà notre Madeleine qui arrive et qui se présente à l'église. Et à l'église, alors là, bon, en général, tout se met à trembler. Les cloches sonnent, les bénédictions tournent. Vraiment, c'est l'affolement général. Les enfants de cœur, ils laissent tomber leur livre de messe. Et le prêtre lui dit, baisse, Madeleine, baisse un peu de tes grandeurs. Et qu'est-ce qu'elle leur répond? Elle leur répond, prêtre, finissez votre messe. Je ne les baisserai pas pour vous, mes grandeurs. Hein. Le bon Dieu me les a donnés pour les porter tous les jours. Oui, elle n'est pas pénitente. Voilà, alors tout ça, ce sont une accumulation de petites choses qui fait. Alors, quand je parle de cette chanson à d'autres personnes dans d'autres régions, je dis, mais c'est pas possible, Madeleine, c'est pas possible. Et ils sont complètement éberlués. Ben, cette chanson, c'est une chanson très, très, très ancienne. Et ça s'appelle un plagne, c'est-à-dire une lamentation, comme si c'était une lutte entre une ancienne religion et une nouvelle religion. Voilà. Et Madeleine, c'est un peu le symbole de toute la religion ancienne qui ne veut pas se laisser écraser. Voilà. C'est... Voilà, les rebelles. Et alors, pour finir avec ces histoires, regardez toutes les effigies, tout ça, ce sont des saintes Madeleine. Alors, voyez, toujours la même pose, comme ça. Même celle-là qui est dans l'église de Corrèze, elle pleure vraiment, mais elle a le même geste. On a repris toujours les mêmes gestes, elle a le pot de parfum, et le geste, elle pleure. Et celle-là, ce sont des madeleines un peu plus coquettes, mais toujours avec la... Là, il y a le pot de parfum, puis alors que ce soit l'eau, c'est la robe, comme ça, avec les petits déhanchés un peu baroques, là. Voilà. Et tout ça pour dire que on a repris des vieux archétypes de femmes, divinités, et on leur a fait dire autre chose. Voilà. Et en Limousin, ça n'est pas passé toujours conformément à ce qu'on aurait souhaité. Alors maintenant, on va passer à des choses plus concrètes. Hein. Alors, en 1787, c'est la situation, c'est un dessin qu'on trouve dans l'histoire de la France rurale, qui a été fait d'après Jung, hein, de cet Anglais qui a visité la France à cette époque-là. Alors, vous voyez ici, en strié, c'est la misère. Alors, vous l'en trouvez là. Vous en trouvez dans les Alpes du Nord, du Nord-Est. La pauvreté, c'est ça, ça, un peu là, toujours au sud de la Loire. Un peu en Champagne, parce qu'en Champagne, c'est pas bien riche, la Champagne pouilleuse. Hein. Et puis, là, c'est les gens qui sont à l'aise. Ensuite, les gens qui vivent. Eh bien, semble-t-il que les Bretons, ils s'en sortent pas si mal. On nous dit que les Bretons... Je ne sais pas la crédibilité qu'il faut accorder à cette carte, mais enfin bon, c'est un témoignage. Et alors, si je limite les zones qui sont vraiment des zones de pauvreté ou de misère, vous avez toujours cette ligne-là. Et si j'inclus cette zone qui est une zone de misère, avec l'enclave à l'aise, là ils sont à l'aise,
Les historiens nous diront pourquoi ils ont un S, peut-être à cause du commerce avec le Nouveau Monde, je ne sais pas. Mais vous avez donc toujours encore une France pauvre. Le Sud, parce que maintenant c'est devenu la France, à partir de Philippe Auguste, c'est devenu la France. Et une France riche. Donc on a vraiment deux moitiés de la France. Et dont l'une a colonisé l'autre. Voilà, et ça, il faut souvent le dire et le redire. Parce que les gens disent, moi je sais très bien, j'ai fait mes études de lettres et d'histoire au nord, à Nancy. Ben, je peux vous dire que ça, on n'en parle jamais. C'est pas perçu, du tout. Bon, alors, et dans, avec cette France, ce Limousin en plein cœur de la misère, vous avez Turgot qui, en 1780 et quelques, quand il était intendant du Limousin, dit que les Limousins n'ont quasiment jamais mangé de pain. Mais vous avez aussi une étude statistique faite par un Russe, étonnamment, qui nous dit que, avant la Révolution, les paysans du Bas-Limousin possèdent 55% des terres. Avant la Révolution. Et pourtant, ils sont dans la misère. Alors voilà. Alors voilà. Là, vous avez... On va essayer d'expliquer pourquoi. Là, vous avez une famille du Limousin au XVIIe siècle. C'est une gravure qui représente 6 personnes. Vous avez le couple jeune, là. Un vieux père. 2 femmes. Un enfant. Et l'homme fait signe, la femme a l'air de lui donner des consignes. Mais il y a très peu de représentations des paysans limousins, mais très souvent, ils sont en train de partir. Ce n'est pas la seule image où ils indiquent qu'ils s'en vont. Alors justement, regardez bien cette image. Alors là, vous avez le père, vraisemblablement. Là, vous avez 2 femmes. On peut penser qu'il y en a une qui est la femme de celui-là, et puis que l'autre, c'est soit une vieille tante, soit une cousine, soit une voisine. Une femme. L'image dit quand même une famille du Limousin. Alors, quand on parle de situation de la femme, il faut savoir de quoi on parle. Parce que si c'est la belle-fille, effectivement, toutes les personnes qui me disent « Oh là là, qu'est-ce qu'elles ont souffert, ces brus, qui partaient dans une autre famille, c'était quasiment les servantes de la famille. » Et ça, vous entendez actuellement toujours les femmes qui vous le disent, que c'était vraiment la misère. Elles partaient dans une autre famille et là, elles étaient exploitées. C'était les servantes de toute la famille, les belles-sœurs, etc. Mais... la foncière, moi c'est un mot que j'ai appris à la matière basse par une vieille dame qui me racontait, qui me disait, oui mais ma grand-mère, elle était foncière. Elle était foncière, c'était elle qui avait le fond. Donc si elle avait le fond, ça changeait tout. Elle ne quittait pas sa maison, elle restait chez elle. Donc elle ne serait pas servante, elle ne serait pas brue, elle ne serait pas dans une autre famille. Et elle se marierait, bien sûr. Mais l'homme qu'elle allait épouser, il allait venir. Et bien voilà, il serait, c'est tout le monde dit, ah ben lui il est que gendre. Il est cogendre. Et ça change tout. Et c'est une situation rarissime dans le monde. Chez les anthropologues, on dit que c'est la patrie ou la matrilocalité. Donc, la patrilocalité, on habite chez le père, chez l'homme. La matrilocalité, on habite chez la mère. La femme n'a pas changé de foyer. Et ça, je peux vous dire que c'est totalement rare.
Ah oui.
Eh bien, oui. Eh bien oui, les deux dernières. Oui. Alors, en France, ça concerne des régions pauvres, par exemple le Gévaudan, la Lozère, parce que c'est pareil, ce sont des régions pauvres. Il y a aussi des régions des Pyrénées, où c'est un peu comme ça aussi, et des régions du Pays Basque. C'est toutes les régions où la terre est un peu pauvre. Donc, peu importe, si la terre avait été riche, on ne l'aurait pas laissée à des femmes. Mais ça donne aux femmes une position dont elles ont su profiter. Alors, la transmission de la terre, justement, alors pour garder la terre, il y a une expression, il faut faire un aîné. Ça, c'est aussi une expression que faire un aîné. Eh bien non. Non. Pas forcément. Faire un aîné, ça veut dire décider qui sera héritier. Donc, c'est pas forcément un aîné.
C'est pas forcément un garçon.
C'est pas forcément un
garçon. Non. Ma mère, c'était une femme. Ma mère, c'était une femme. Elle avait une trois-aînesse.
Est-ce qu'elle était aînée?
Oui.
Elle était aînée.
Oui.
Bon, des fois, ça correspond. Mais dans beaucoup de familles au nord de la France, c'est l'aîné des garçons.
Oui.
Tandis que là, ça peut être l'aîné aîné vraiment des garçons, ça peut être l'aîné des filles, ça peut être la fille aînée, quand celui qui était aîné. Mais des fois, on s'est rendu compte que même s'il n'y avait pas un aîné, c'est on faisait oui la fille est choisie comme aînée.
C'était celui qui restait à la terre.
Voilà. C'était celui qui restait à la terre. Et celui justement, celui qui restait à la terre, on allait décider qui allait rester à la terre.
Oui.
Qui allait rester à la terre. C'est pour ça. Voilà. Celui qui allait prendre en charge les parents.
Voilà.
Celui qui allait prendre en charge le domaine,
voilà.
Pendant que les autres partaient, et justement, c'est cette histoire d'émigration, pendant que les autres garçons partaient rapporter l'argent indispensable au maintien du domaine. C'est pour ça l'expression « faire un aîné ». Mais c'est pour ça aussi, il faut aussi savoir qu'on est dans un pays de droit écrit par rapport aux autres régions du Nord, puisqu'ils sont des pays de coutume, c'est-à-dire que le droit écrit, c'est un droit hérité des Romains, et que du moment que ça a été écrit, chez le notaire,
c'est
chez
le notaire.
C'est pour ça qu'il y a tant de notaires dans les moindres villages. Quand ça a été écrit, eh ben, c'est sous force de loi. C'est pour ça que à la veille de. Quand on se sent pas très bien, quand on sent venir l'heure, eh ben, on se dépêche de faire son testament. Pour s'assurer que le bien va être transmis comme on l'aura décidé et le mieux possible. Sinon, si pas de testament, ben les héritiers peuvent se partager l'héritage et disloquer le patrimoine. On aura mis des générations à accumuler. Parce que, il faut bien vous dire aussi, c'est que le Limousin est une terre pas très riche et que très tôt, les petits seigneurs ruraux ont abandonné la terre pour des happés d'abord par Avignon, les papes d'Avignon, ensuite Paris, où ils avaient des charges lucratives, bien plus lucratives que leur pauvre domaine de Limousin. Donc ensuite, ça a été récupéré par des notables bourgeois. Et ensuite, peu à peu, à force de peine, à force de ruse, à force de stratégie, les paysans se sont constitués de petites propriétés. Et c'est le bien qui donne la noblesse. Même si c'est trois quarts d'hectare, ça fait rien, on a la terre. Et il ne faut pas la distoquer, il faut la transmettre le mieux possible.
Il n'y avait pas de compensation par rapport à ceux qui n'héritaient pas. Il n'y avait pas des systèmes
Alors,
de compensation.
Plus ou moins, mais ça c'est après l'introduction du code civil. Parce que justement, je ne sais pas si c'est l'image, ouais voilà, ça tombe bien. À la Révolution, le grand principe liberté, égalité, fraternité, égalité, c'était pour tout le monde. Partant d'un bon principe que tout le monde doit avoir égalité, qu'il faut partager les grandes propriétés, on n'a pas fait la différence, ils ne se sont pas rendus compte, non parisiens, parce qu'ils ne connaissaient pas la terre, que les petites propriétés qui devaient être partagées, c'était la catastrophe. Alors, il y a eu toutes sortes de stratégies. Des enchères fictives, des compensations plus ou moins fictives, etc., pour vraiment ne faire qu'un seul héritier.
Et puis il y a eu les guerres de la Révolution et de l'Empire qui ont pas mal déblayé le terrain.
Aussi. Exactement. Et donc voilà, ça a été une grande coupure. Et finalement, voilà une photo du début du XXe siècle. Qu'est-ce que vous constatez? 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes, comme tout à l'heure. C'est peut-être un hasard, mais cette photo, elle est parlante.
Et il y a les beaux-parents, il y a
tout le monde. Ouais, et alors, dans le couple, qu'est-ce que vous constatez dans le couple?
C'est elle qui est foncière.
Eh ben oui, c'est elle qui est foncière, ça se voit. Regardez, elle a l'air bien à l'aise.
C'est la foncière, moi, elle a pas
le... Et le...
Il est plus jeune.
Et puis, c'est comme vous dites tout à l'heure, c'est comme la rue. Et j'ai même, sans doute que vous connaissez Dominique de Conce, certains, qui est professeur d'Occitan, qui était. Et elle me dit, mais quand j'étais petite, je croyais que gendre et valet, c'était pareil.
Et la rue est servante.
Et aussi, parce que les histoires de châtaigne dans la Brogue,
oui.
On dit que c'est à cause de l'héritage, il faut donner des héritages aux filles, donc ça...
Ça
ruine. Mais les garçons devaient aussi apporter leur dot.
Oui.
Eh bien oui. Seulement, l'avantage des garçons, c'est qu'ils pouvaient aller gagner leur dot à l'extérieur.
Ouais, c'est ça.
Ils partaient faire des campagnes de maçons, de cordonniers. Moi, j'ai vu un contrat où il est stipulé dans le contrat de mariage que le garçon viendra habiter chez sa femme et qu'il apportera aux revues, au ménage, et même qu'il donnera aux beaux-parents. Ses beaux-parents, le résultat de sa campagne de cordonnier. Voilà, donc les garçons pouvaient apporter quelque chose qu'ils auraient été gagnés à l'extérieur. Voilà, donc ensuite vous avez leur enfant, un garçon. Le père, alors là on voit ce qui tient bien, ça se voit, et on voit bien que la femme, c'est stéréotypé, c'est franco. Et puis là, ben, vous avez la grande, c'est une tante, c'est une belle-sœur
célibataire,
voilà. Célibataire qui ne s'est pas mariée et qui reste là, effectivement, comme servante. Voilà. Et alors, leur enfant, un garçon. Et alors, les historiens constatent à la fin du 19e siècle qu'il y a une chute démographique incroyable. Et ils accusent de cela le Code civil, parce que dans les stratégies pour pas partager, eh bien, là, il y a la limitation des naissances. Et cette dame qui m'a parlé de foncière, elle m'a parlé aussi. On faisait attention à ne pas faire trop d'enfants. Un enfant, c'est aller, deux enfants, mais pas plus. Bon, alors, ça dépendait, bien sûr. Il y a des familles où il y avait une quantité d'enfants. Bon, il y avait d'abord la mentalité infantile, mais enfin, la mentalité, la santé, quand même, a fait des progrès. Mais bon, c'est ce qu'ils disent. Alors, voilà, dans ces régions, c'est les cartes d'Alain Corbin. Là, vous avez une carte des propriétaires. Donc, les propriétaires, vous les voyez plutôt dans la moitié est. Et là, vous avez la carte du métayage. Donc le métayage, c'est plutôt dans la moitié ouest, là où il restait des grandes propriétés et où les domaines étaient cultivés en métayage. Et ça, vous avez la carte des biens communaux. Alors, vous trouvez beaucoup de biens communaux dans des endroits où il y a aussi un grand développement de la propriété. Bon, les endroits blancs, c'est qu'ils n'ont pas été renseignés. Voilà, donc les biens communaux, les propriétés sont tellement petites qu'on a besoin de biens communaux pour compléter, pour les bêtes, pour les bichifichés un peu plus. Et puis aussi, c'est aussi des régions d'émigration. Donc qui dit petite propriété, dit biens communaux et dit émigration. Il faut partir ailleurs. Il faut partir ailleurs. Ce qui fait que, eh ben, comme les garçons doivent partir ailleurs, eh ben, c'est souvent les femmes, je dirais pas tout le temps. Mais dans une commune comme la Mazière Basse, encore en 1906, eh ben, on constate qu'il y a à peu près le tiers des propriétés qui sont tenues par des femmes dans les villages. Donc le tiers, c'est pas rien. Ah, je ne veux pas généraliser, mais ça donne une place aux femmes dont elles ont su profiter. Et quand les gens me disent « Ah oui, ma grand-mère, c'est la foncière, c'était elle qui... » C'était la patronne, hein. Voilà. Alors, ça empêche, on va arriver vers la fin. Alors, de vous marier, ne vous pressez pas tant, ça c'est sûr, c'est la chanson de la mal mariée, qui doit, même si elle est foncière, qui doit vêtir ses enfants, qui doit nourrir ses enfants, qui doit faire tous les travaux bien connus, hein, tout. Nourrir, mais aussi vêtir, donc là, avec toujours le fuseau à la main, la quenouille à la main, en train de faire des, ou alors à faire des paniers. Et si vous étiez les doigts inoccupés, on vous traitait de feignante. Ça, c'est sûr. Et par exemple, la Béna, elle faisait des tabacs, elle faisait la paille. Il y en a qui faisaient des filets, il y en a qui faisaient des fromages, il y en a qui faisaient. Moi qui ai vécu au Pérou, j'ai vu quotidiennement. Les femmes filaient, tout le temps. Sur les chemins, on regarde. Et puis les vêtements, eh ben, il faut une fois, on les fait durer, on se casse, on rentre casse, etc. Voilà. Ce fuseau, vous l'avez déjà sur une plaque d'émail du Moyen-Âge qui représente la Visitation. Donc vous avez cette très belle représentation. Et puis ce linge qui est si important, par lequel j'avais commencé, c'est capital. L'invention du linge par rapport aux peaux de bête, c'est capital. C'est filer, faire du tissu, c'est vraiment quelque chose de précieux et de sacré. Bon, alors c'est pour ça que dans plein de pays, vous trouvez des bandelettes de tissu accrochées dans les arbres, même dans les pays musulmans, qui montrent que c'est un don, c'est un ex voto qu'on offre. Hein, pour obtenir quelque chose. Et là, vous avez des ex-voto, c'est-à-dire des... vous avez des linges de malades qui ont été apportés à une bonne fontaine pour avoir la guérison. Et là, vous avez ensuite, là, c'est à Saint-Sagittaire à Saint-Stier, les tissus, les linges de malades, ils ont été remplacés tout simplement par des rubans de satin. Et ça, c'est un geste... la suite logique, puisque moi je l'ai vu pratiquer. J'ai été là à la Fonfort, à Bénaille, le 24 juin, à la fête de la Fonfort. Je suis retournée 3-4 jours après. Et bien tout ça avait été supprimé, tous ces linges d'enfants. Mais vous y retournez maintenant, il y en a autant, et sinon plus. Hein. Et ils avaient été supprimés parce que l'évêque allait venir. À la fête de la Saint-Jean de la Fonfort. Donc on a trouvé que ça l'affichait mal. Et on avait remplacé par des rubans de satin blanc. Ça présentait quand même mieux. Voilà, donc là vous avez, c'est le Saint-Sagittaire et la Sainte-Madeleine de la Mirande aussi, c'est des rubans de satin blanc qui ont remplacé les linges. Alors vous avez, je ne peux pas terminer sans évoquer Marcel Delpastre. Hein, qui a parlé de la femme, ta mère, ta soeur, ta femme, qui berce, qui fait téter, qui bac, c'est-à-dire la bagarre des cochons, qui lave, qui file, etc., etc., et qui vient avec l'outil, quel qu'il soit, travailler dans le champ, tirer la scie, changer la bûche, et qui fait non seulement son travail de femme, mais qui fait aussi le travail de l'homme pour l'aider. Voilà, donc ça c'est les peines qu'elles ont encourues. Et puis aussi, c'est une photo de Simon Loradour à Merlin. C'est une femme qui, le poil sur la hanche, un peu comme cette Madeleine tout à l'heure, qui aide son mari à débarquer du bois. C'est aussi une photo de Simon Loradour à Merlin. Là. Et puis cette photo d'exposition agricole au pied de Limoges, la femme qui mène les bêtes, l'homme qui est déjà sur le tracteur, et la bergère qui file, la grand-mère qui file. Voilà, ensuite deux mots, très en vitesse, parce que j'ai ça déjà bien duré assez de temps. Ça, c'était donc des gravures de Gaston Vuillet. C'était pour vous dire que les femmes, ça c'est aussi la Fonfort, ce sont les femmes qui sont toujours les gardiennes des rituels, des rites, des gestes à accomplir. Et là, elles sont en train de prier pour savoir à quelle fontaine elles vont emmener un enfant malade. Là, elles versent de l'eau C'est au musée à la Banche que vous trouverez cette représentation. Elle verse de l'eau dans le cou de la bonne fontaine, dans le cou de cette autre femme, pour soigner ses rhumatismes. Et puis là, vous avez un berceau avec quatre bougies et les femmes qui prient. Et la première ou la première qui s'éteindra, par exemple, indiquera à quelle fontaine faudra emmener l'enfant pour obtenir la guérison. Voilà. Et puis, c'est toujours elles qui sont là devant la maladie et la mort, qui font naître, qui lavent qui accompagnent les morts. On les appelle le feu nassage. Sage-femme. C'est la femme qui a la connaissance. Ouais, pourquoi on dit sage-femme? La sage-femme, voilà. Et voilà, donc je termine avec deux images. Celle d'en haut, là, je vais vous faire une devinette. D'où elle vient? Quand est-ce qu'elle a été faite? Dans un tronc d'arbre, oui. Ouais, ça peut être presque maintenant. C'est-à-dire, ce sont deux vieux garçons de la Mazière qui étaient sculpteurs de joues et qui avaient une grande vénération pour leur mère, ces deux vieux garçons, qui n'ont sculpté que des Saintes Vierges. Donc voilà, parce que la femme, elle est couverte de tous les maux, mais la mère, la maman, sa maman, c'est autre chose. Tous les pays du monde, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent sur les femmes, mais leur maman, c'est la maman. Bon. Et puis, cette femme-là, la photo est particulièrement belle, parce que c'est une belle femme qui lève sa tête vers, je ne sais pas quoi, le ciel, vers
le chignon.
Qui est-ce qu'elle implore? Je ne sais pas. Elle a ses sabots comme la dame de la première photo, son parapluie, son chien. Et alors, pour terminer sur une note un peu humoristique, j'ai demandé à ma voisine, dont c'était la tante, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle regarde le ciel.
Elle a le parapluie.
Elle m'a dit, mais que penses-tu? Elle appelle ses vaches. Elle appelle ses vaches.